Bonsoir, l'actualité des Alpes du Sud de ce lundi 11 avril et à la une. L'abstention encore plus élevée lors de ce premier tour des présidentielles qu'il y a 5 ans. Dans les Hautes-Alpes, le président sortant arrive en tête, suivi de Jean-Luc Mélenchon. Dans les Alpes de Haute-Provence, c'est Marine Le Pen qui récolte le plus de suffrages, suivi de Mélenchon. Emmanuel Macron n'est lui que le troisième homme. Analyse dans ce journal. L'avenir des entreprises du Sisteron et Buèche au cœur d'une réflexion des CCI et de la CMAR PACA. Il s'agit notamment de mieux accompagner les transmissions de sociétés. Il permettra aux visiteurs d'expérimenter les gestes de nos ancêtres. Le préhistocyte des gorges du Verdon a ouvert ses portes. Il représente un investissement de 1,5 million d'euros. En sport, Alexia Querelle, vice-championne de France de snowboard cross. La haut alpine ne s'est fait battre que par la récente médaillée d'argent à Pékin, Chloé Trespoche. 128 000 électeurs étaient appelés aux urnes dans les Alpes de Haute-Provence, 113 000 dans les Hautes-Alpes pour le premier tour de cette élection présidentielle. Et par rapport à 2017, l'abstention est encore plus élevée, plus 22% dans les Hautes-Alpes contre 19% il y a 5 ans, près de 23% dans les Alpes de Haute-Provence contre 19% lors du précédent scrutin. C'est toutefois moins que sur le plan régional avec 26%. Et Cyrielle Cavamy Michard, autre enseignement, on ne vote pas dans les Alpes du Sud comme sur le territoire national.
Si Emmanuel Macron arrive en tête dans l'Hexagone, suivi de la candidate du Rassemblement National, dans nos deux départements, l'exemple français n'a pas fait loi. Dans les Hautes-Alpes, c'est effectivement le président candidat qui arrive en tête à 23,8% des suffrages exprimés. Mais la seconde force politique du département est Jean-Luc Mélenchon à 22,87% devant Marine Le Pen à 22,84%, ce sont seulement 22 voix qui départagent la France insoumise du Rassemblement national. Dans les Alpes d'Haute-Provence, on ne vote pas pareil pour les élections locales que pour les nationales. Preuve en est, régionale, au premier tour, c'est la liste de Renaud Muselier, liste de droite soutenue par les macronistes, qui est en tête devant celle du Rassemblement national de Thierry Mariani. Départementale, la droite d'Éliane Barreille rafle la mise devant la liste de gauche de René Massette. Mais pour les présidentielles, aussi bien en 2017 qu'en 2022, deux ont fait table rase. Marine Le Pen arrive en tête à 26,90% des suffrages devant la couleur rouge de Jean-Luc Mélenchon. Le président candidat Emmanuel Macron ferme quant à lui le podium à 21,51%.
Troisième enseignement, c'est un coup dur pour les droites départementales.
Et oui, notamment celle de Jean-Marie Bernard, le numéro 1 des Hautes-Alpes, co-président du comité de soutien à Valérie Pécresse, mais sa candidate, les Républicains, dans les suffrages départementaux, ne totalise que 5% des bulletins. L'autre co-président de ce comité, Roger Didier, maire de Gap, voit sa ville donner Emmanuel Macron gagnant avec 26% des suffrages devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen dans un mouchoir de poche. La capitale douce n'a rien de tendre avec la candidate Pécresse qui parvient tout juste aux 6%. Du côté des Alpes d'Haute-Provence, majorité de droite également sur les sièges de l'hémicycle, mais Valérie Pécresse réalise là le plus faible score de la droite, 4,48%.
Dernier renseignement, enfin, le paysage politique a véritablement explosé, Cyrielle.
Si la droite de Les Républicains ne fait plus force, que dire aussi du Parti Socialiste? S'il avait connu ses heures de gloire en 2012 dans les Alpes du Sud avec la candidature de François Hollande, sortie gagnante du second tour, suivie par une rafle de la gauche sur toutes les circonscriptions de nos deux départements, le scénario est désormais bien loin derrière. Anne Hidalgo ne parvient même pas aux 2%, devant se contenter d'être derrière les communistes, les écologistes et même derrière le député des Pyrénées, Jean Lassalle. Alors si l'on veut prendre la température pour les prochaines législatives dans les Alpes d'Haute-Provence, alors que la députée sortante Delphine Bagary se présente sous les couleurs d'Europe Écologie Les Verts sur la première circonscription, son candidat Yannick Jadot ne dépasse pas la barre des 4%. Quant à Christophe Castaner pour la seconde circonscription, on n'est pas dans le même cas de figure. Cependant, son candidat doit se contenter de la troisième place derrière le Rassemblement National et la France Insoumise. Quant à son fief, la cité comtale de Fort-Calquier, Jean-Luc Mélenchon arrive en tête de la tête et des épaules avec 33% des voix, loin devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen.
Et puis Cyrielle, chaque élection apporte son lot de particularités.
Les communes où l'on a le moins voté, c'est Vergon et Majastre dans les Alpes-de-Haute-Provence avec 33% d'abstention. La Haute-Baume pour les Hautes-Alpes avec ses 7 votants qui ont boudé les urnes et qui font grimper l'abstention à 37%. La palme du civisme, par contre, revient à Nossage et Bénévent dans les Hautes-Alpes où une seule personne n'a pas voté. L'abstention est donc à 6%. C'est identique à la Haute-Duy dans les Alpes-de-Haute-Provence. Une commune d'ailleurs où l'on a le plus mis le bulletin Macron, le président candidat arrive à 49% des suffrages. À Sorbier, dans les Hautes-Alpes, La République En Marche a même raflé la moitié des voix. Ce qui n'est pas le cas d'Étoile Saint-Cyrus. Le paquet de bulletins Emmanuel Macron sera resté intact, pas un seul vote pour lui. Et puis il y a aussi les communes Bleu Marine, à l'image de Majastre, avec presque 43% des voix pour Marine Le Pen, c'est 39% pour Monnetier-Almont. Quant au troisième homme de ces élections, Jean-Luc Mélenchon, sa terre conquise, Basse-Alpine, est l'immense, avec 48% des suffrages. Mais là où il marche véritablement sur l'eau, c'est à Éour, une commune dans laquelle il s'est d'ailleurs rendu durant cette campagne. 91% des voix sont allées au candidat de la France insoumise, pas une seule par contre pour Marine Le Pen. Enfin, la commune à l'égalité parfaite dans les Alpes du Sud, c'est Le Caire qui donne Emmanuel Macron et Marine Le Pen tous deux à 29,31%.
Merci Cyrielle. En tout cas, l'abstention questionne toujours autant sur l'état d'esprit des électeurs. Dans le petit village de Puy-Saint-André, dans le Briançonnais, un peu moins de 400 habitants étaient appelés dans l'isoloir. Et hier, près de 20% des électeurs ont boudé les urnes. Les réactions au micro de Thibaut Durand.
Bonjour madame. Votre carte d'électeur, s'il vous plaît. Merci. 390.
À voter. Pour moi, voter, c'est choisir l'avenir qu'on veut pour notre pays, pour nos familles, pour nous. Et voilà, on a cette liberté, il faut en profiter.
C'est super important parce qu'on se rend compte avec la crise environnementale qu'on a de moins en moins de temps devant nous. Donc c'est une occasion à saisir, ouais. Et puis chacun, personnellement, on n'a pas tant de pouvoir, mais si on s'y met tous, on peut s'exprimer souverainement. Ouais.
Voilà, je viens faire mon devoir de vote, parce qu'il est important de voter, surtout à l'heure actuelle, c'est notre seul droit de décision, et donc il faut absolument le maintenir.
Le droit de vote, c'est en même temps une responsabilité et en même temps un partage. C'est vraiment faire partie d'une citoyenneté et d'un ensemble d'un pays.
Ah ben, je crois que c'est un des droits essentiels de la démocratie, de pouvoir s'exprimer et en connaissance de cause, hein, c'est-à-dire avoir lu les programmes des électeurs et des candidats et puis manifester son soutien ou non. Voilà.
La démocratie, ceux qui ne votent pas cautionnent la dictature.
Une des façons d'exercer sa citoyenneté.
C'est un droit, puis c'est un devoir pour moi, c'est essentiel. Et puis ce matin, je me disais, c'est quand même génial, dans la journée aujourd'hui, on peut avoir une image totale de ce que les gens ressentent sur le territoire français. Enfin, c'est génial comme truc, sauf que c'est dommage, tout le monde ne vote pas, mais c'est une occasion unique, moi je trouve.
Dossier à retrouver dans son intégralité sur alpe1.com avec les résultats des présidentielles communes par commune. Dans le reste de l'actualité, les soldats du feu mobilisés à Méolan-Revel ce matin après l'incendie d'une habitation. 21 pompiers de Labréole, de Barcelonnette, mais aussi avec un renfort du côté des Hautes-Alpes, se sont rendus au lieu-dit Le Verger. Les 4 personnes qui résidaient dans la maison n'ont pas été blessées. Je vous en parlais dans les titres. L'avenir des entreprises du Sisteron et Buèche est en réflexion. Avec près de 10 000 emplois recensés, dont la quasi-moitié sur le bassin sisteronnais, ce territoire est composé majoritairement de petites entreprises. Et la question de la transmission ou de la reprise de ces sociétés est un véritable enjeu, car ces patrons rencontrent souvent des difficultés lors de cette phase. Grâce au financement de 60 000 euros de la part de la région et du programme Leader, les deux CCI des Hautes-Alpes et des Alpes-de-Haute-Provence ainsi que la Chambre des métiers et de l'artisanat PACA ont une mission simple mais longue, recenser et accompagner les entreprises qui sont susceptibles de faire l'objet d'un schéma de transmission dans les années qui viennent. Ce programme d'action optimisation de la reprise d'entreprise par la préparation des cédants sur le Sisteron et Bioche a été présenté vendredi dernier à Mison lors d'un comité de pilotage. Il se divise en trois étapes distinctes, explique Franck Milias, membre du bureau de la CCI 05.
On a commencé en adressant une enquête où on a eu un bon retour de un panel de chefs d'entreprise pour inviter les entreprises à prendre attache avec la CCI. Alors, je le précise, le dispositif, il est totalement gratuit. Le dispositif, de manière synthétique, c'est un peu un audit et une synthèse de la situation de l'entreprise. On voit en quel état, à la fois économique, humain, se trouve l'entreprise. On évalue ses forces, ses faiblesses et on va passer sur une valorisation de l'entreprise. Dernier aspect, il fait partie de la mission d'identifier des repreneurs potentiels pour ces entreprises. C'est essentiel qu'on ait le support et l'appui total des élus au plan local parce que déjà c'est eux qui ont la véritable connaissance du tissu économique. Donc c'est eux qui sont le plus en capacité déjà de nous épauler dans nos démarches et deuxième aspect de nous flécher des entreprises qui sont susceptibles de relever de ce programme.
Et 760 entreprises ont été ciblées, 87 d'entre elles ont répondu à l'enquête de recensement. 26 sociétés ont déjà fait le choix de se faire accompagner par ce dispositif. En bref, des travaux de sécurisation à Alvolx ont débuté ce lundi, situé sur la RD 4096 entre les giratoires de la Madeleine et de la Carottière. Ce chantier fait partie d'un projet global d'aménagement de la RD entre Manosque et Volx. La circulation se fera par alternat jusqu'à mercredi de 8h à 18h. Il offre une véritable plongée dans le passé depuis plus de 20 ans. Le musée de préhistoire des Gorges du Verdon accueille chaque année plus de 70 000 visiteurs, un lieu qui se penche sur l'histoire des premiers hommes. Mais avant cet espace, un village préhistorique avait été créé au début des années 90, un lieu qui ne correspondait plus aux besoins du musée et qui était de plus installé sur une zone inondable. Après plus d'un an de travaux, le préhistocyte a été inauguré. Et vendredi dernier, Christophe Laurenceau nous le fait découvrir pour Alpe 1.
30 ans après la construction du village préhistorique, le préhistocyte accueille donc ses premiers visiteurs, 3 hectares pour partir à la découverte de nos ancêtres et de leur habitat. Mais il a fallu traduire les données de l'archéologie, indique Caroline Luzy, responsable de l'unité scientifique et culturelle au musée de préhistoire des Gorges du Verdon.
Généralement, c'est la pierre qui se conserve parce que le bois, le cuir, la peau, tous les matériaux organiques ne se conservent pas.
Un lieu qui se veut comme un complément au musée de préhistoire.
Dans le préhistocyte, on déambule librement, gratuitement. On s'informe si on veut avec les panneaux qui sont à disposition et la visite peut s'arrêter là. Mais on peut aussi pratiquer les gestes de la préhistoire et c'était ça un petit peu l'idée de la médiation à Quinçon dès l'ouverture du musée. C'est associer un espace théorique où bien sûr on voit des objets mais un espace avec une certaine présentation de la préhistoire et aménager un autre endroit, donc aujourd'hui c'est le préhistocyte, un endroit où on va expérimenter les savoir-faire, les connaissances des préhistoriques par le geste.
Une possibilité proposée aux visiteurs mais aussi aux écoliers. Chaque année, entre 10 000 et 12 000 scolaires sont accueillis par le musée. C'est le cas de la classe d'archéologie du collège de Riez. Elle a testé en avant-première ce préhistocyte en compagnie de Natacha Jovic, enseignante en lettres classiques.
Ils apprennent donc le monde de la préhistoire, du paléolithique jusqu'au néolithique et même l'époque de bronze. Donc on est en train de faire du tir à la saguée ce matin. L'expérience des mains, voilà, c'est quelque chose qui pour eux va rester.
Allez, vas-y, lâche. Faut lâcher.
Ouais. Wow. Ce préhistocyte représente un investissement de 1,5 million d'euros avec un financement de l'Europe dans le cadre du programme Alcotrapitem-Pace à hauteur de 852 000 euros. Le département des Alpes de Haute-Provence qui a aussi mis la main à la poche en investissant plus de 660 000 euros pour sa présidente Eliane Baraille. Il doit contribuer à l'attractivité du territoire.
Aujourd'hui, ce site, évidemment, complète l'offre du musée de la préhistoire sur Quinçon. Donc, on peut y espérer un développement touristique et économique complémentaire. Il vient aussi compléter l'offre qui est faite au musée de Salagon, qui, elle, parle de l'habitat.
Le préhistocyte, un équipement pour comprendre le passage et notre humanité, mais qui souhaite tout naturellement s'ancrer dans l'avenir.
Merci Christophe. C'est une troupe moldave qui interprétera le Lac des Cygnes au Quattro le 19 avril prochain. Annonce de la ville de Gap suite à un message à proximité de la salle associant le prochain spectacle à la guerre en Ukraine. Depuis plusieurs mois, du fait du contexte, l'organisateur Capital Productions a modifié son événement. L'Opéra National de Russie qui devait se produire a été remplacé par le Théâtre National d'Opéra et de Ballet Maria Biezu de Moldavie. Même s'il n'est évidemment pas question d'assimiler les artistes russes à la guerre provoquée par leur pays, ajoute la ville-préfecture des Hautes-Alpes. Et puis un mot de sport pour conclure avec Alexia Kerel, sacrée vice-championne de France ce week-end. Après une saison pleine en Coupe du Monde de snowboard cross et une première expérience olympique à Pékin, la Haut-Alpine a obtenu une belle médaille d'argent, c'était à Isola 2000. L'athlète depuis Saint-Vincent se positionne sur le podium entre Chloé Trespech, qui est pour la cinquième fois championne de France, et Manon Petit-Lenoir.
Retrouvez, réagissez à l'actualité des Alpes du Sud à tout moment sur les réseaux sociaux.